Écho de la bonne nouvelle. Écho de la bonne nouvelle, une émission d'évangélisation et d'édification chrétienne. Où votre nom est-il écrit? Dieu dit dans sa parole que nos noms sont écrits soit sur la terre, soit dans les cieux. Ce sont deux lieux bien différents. Nous lisons en Jérémie 17, verset 3, « Ceux qui se retirent de moi sont écrits sur la terre, car ils ont délaissé la source des eaux vives, l'Éternel. » Il en est ainsi aujourd'hui pour tous ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus, le Sauveur des hommes. Pour eux, leur nom est écrit sur la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre et ne vivent que pour elles. Ils oublient volontairement qu'après la mort du corps, l'âme ne cesse pas d'exister. Le jour viendra où ils devront rendre compte à Dieu de tout ce qu'ils auront fait pendant leur vie. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela, le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Tous ceux dont les noms sont écrits sur la terre comparaîtront devant le Seigneur qu'ils ont méprisé. Un jugement juste et parfait sera prononcé. La condamnation sera sans palabre. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Et ils seront jetés dans l'étang de feu. Verset 15. Le Seigneur Jésus dit à tous ceux qui croient en lui, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc chapitre 10, verset 20. Ainsi, chaque croyant peut dire, je sais que mon nom est écrit dans les cieux, car je crois en Jésus-Christ. J'étais perdu à cause de mes péchés. Je méritais le jugement du Dieu saint et juste. Mais Jésus est mort pour moi et il m'a pardonné. Il m'a sauvé. Je crois le témoignage des saintes écritures qui déclare que son sang m'a lavé de tous mes péchés et que la foi en son œuvre sur la croix me justifie aux yeux de Dieu. Sauvé, justifié par sa grâce, par son sang, par la foi, je sais que je possède la vie éternelle. C'est dans le ciel, là où est Jésus, mon Sauveur, que mon nom est écrit. Bientôt, le Seigneur Jésus reviendra chercher tous ceux qu'il a rachetés pour les introduire avec lui dans sa gloire éternelle. Cher ami, votre nom est-il écrit dans le livre de vie, dans les cieux? la vie nouvelle des enfants de Dieu. Le sixième jour de son œuvre créatrice, Dieu créa l'homme selon son image et le plaça comme dominateur sur toutes choses sur la terre. Dieu avait pourvu l'homme de grandes capacités et lui avait confié cette noble tâche d'être son représentant sur la terre. Quelle position excellente! Quel privilège l'homme avait ainsi reçu! Mais nous savons que Satan a poussé Ève et Adam à désobéir et à se rebeller contre Dieu. Par la désobéissance d'Adam, le péché est entré dans le monde et a atteint tous les hommes. Alors qu'il avait été créé pour régner sur la terre, l'homme est devenu esclave du péché et de Satan. Le représentant de Dieu dans la création est devenu l'ennemi, l'adversaire de son Créateur. L'homme est maintenant étranger à la vie de Dieu. Ses raisonnements ont été obscurcis par le péché. Ayant perdu tout sentiment moral, il s'est livré à la débauche pour pratiquer avidement toute impureté. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 19. Or, Dieu déclare que ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort. Romains chapitre 1, verset 32. Mais Dieu qui est riche en miséricorde et à cause de son grand amour a trouvé un moyen pour nous arracher de cette misère. Tout pécheur qui vient à Dieu en confessant ses péchés reçoit par Jésus le pardon et aussi une nouvelle nature. Il est alors un enfant de Dieu qui participe à la nature de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 1. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Les caractères fondamentaux de cette nature divine sont la lumière et l'amour. Auparavant, nous étions ténèbres, mais maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 5 verset 8. Autrefois, nous étions haïssables, nous haïssant l'un l'autre, mais maintenant, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, ce qui nous rend capables d'aimer même nos ennemis. Tite chapitre 3 verset 3, Romains chapitre 5 verset 5 et chapitre 12 verset 20. Nous n'avons pas seulement reçu une nouvelle nature qui peut faire ce que Dieu désire, mais notre vie a aussi reçu une nouvelle force et un nouveau dirigeant. Nous ne sommes plus faibles et asservis par la chair pécheresse, car Dieu nous a donné son Saint-Esprit, force puissante et dirigeant divin. Romains chapitre 8 verset 9 et les versets 13 et 14. Ayant la paix avec Dieu, nous pouvons par cet esprit appeler Dieu Abba Père, bien-aimé Père. C'est encore par le Saint-Esprit que nous sommes guidés pour comprendre les saintes écritures et être conduits dans toute la vérité. Jean chapitre 16 verset 13. Le but principal du travail du Saint-Esprit en nous est de diriger nos regards vers notre glorieux Seigneur. En contemplant sa personne et ses gloires dans la parole, nos cœurs se détachent des choses de la terre et nous sommes de plus en plus transformés à la conformité morale de notre Seigneur. Ayant reçu la vie de notre Seigneur Jésus, nous sommes appelés à marcher ici-bas comme lui a marché sur cette terre. 1 Jean chapitre 2 verset 6. Soyons ses imitateurs en suivant son modèle. Regardons par exemple comment l'apôtre Paul, imitateur de Jésus, a marché ici-bas. Il a eu beaucoup d'épreuves. Il fut un jour lapidé. Il fut souvent chassé des villes où il prêchait. 5 fois, il reçut 39 coups de fouet. Il fut plusieurs fois mis en prison. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 28. Mais Paul n'a pas murmuré. Il n'avait plus l'esprit de vengeance. Il ne haïssait pas ses ennemis. Savez-vous ce que Paul désirait? Il désirait que toutes les épreuves le rendent plus conforme à Jésus, qui n'était pas en colère quand les hommes se moquaient de lui, ou quand il le clouait sur la croix du calvaire. Jésus a aimé ces hommes qui l'ont crucifié. Les enfants de Dieu doivent avoir le même amour que Jésus. Soyons conscients que nous avons reçu une vie nouvelle, celle de Jésus. Si nous avons reçu une vie nouvelle, c'est pour qu'elle se manifeste chaque jour. Le croyant est un sacrificateur. Les sacrificateurs sous l'ancienne alliance. Dans l'Ancien Testament, le peuple juif était le peuple de Dieu au milieu de tous les autres peuples païens. Parmi ce peuple juif, il y avait une classe privilégiée d'hommes désignés par Dieu pour être ses sacrificateurs. Cette classe privilégiée appartenait à la famille d'Aaron. La mission des sacrificateurs était d'accomplir, avec l'aide des Lévites, tous les actes du service religieux que l'Éternel avait prescrit pour que le peuple puisse s'approcher de Dieu et se réjouir dans sa communion. Les sacrificateurs dans le Nouveau Testament. Depuis la mort du Seigneur Jésus à la croix, sa résurrection et sa glorification dans le ciel, ce sont les croyants nés de nouveau, qui constitue le peuple de Dieu au milieu de tous les autres hommes. À la différence du peuple juif, tous les croyants sont sacrificateurs. C'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne clairement dans la première épître de Pierre. Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Il n'y a donc plus une classe de personnes privilégiées parmi les croyants. Ils ont tous été faits sacrificateurs pour Dieu. Quelles sont les activités des sacrificateurs aujourd'hui? L'adoration. Autrefois, sous l'ancienne alliance, le premier service que les sacrificateurs accomplissaient consistait, en rapport avec le tabernacle, à offrir des sacrifices, à faire fumer l'encens pour Dieu. Aujourd'hui, ce sont des sacrifices spirituels que les croyants font monter vers Dieu. C'est le culte d'adoration exprimé en prière, louange, hymne. Dieu y prend plaisir. Ils lui sont agréables car ils sont offerts par Jésus-Christ. Beaucoup pensent que ce service n'a que peu de valeur par rapport à d'autres activités chrétiennes. Mais c'est là une pensée humaine et non celle de Dieu. L'adoration est une activité exercée pour Dieu et non pour l'homme. Pendant l'éternité, Dieu s'entourera d'un peuple de sacrificateurs adorateurs pour exalter ce qu'il est et ce qu'il a fait. Quel bonheur pour le croyant de commencer cette activité sacerdotale déjà sur la terre. L'évangélisation. L'autre service, lié au caractère royal de notre sacrificature, est d'annoncer à tous ceux qui nous entourent les vertus de Dieu qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Cette proclamation peut être faite de bien de manières par nous croyants, Nous connaissons un Dieu glorieux qui a fait une œuvre glorieuse par Jésus-Christ envers les hommes. C'est ce Dieu saint, juste, miséricordieux, ce Dieu d'amour et d'espérance, ce Dieu sauveur que le croyant est heureux d'annoncer dans ce monde. Nous devrions être fiers de pouvoir faire connaître aux hommes un tel Dieu. Le témoignage. Autrefois, les sacrificateurs portaient l'arche du témoignage. Aujourd'hui, dans le christianisme, Dieu appelle les serviteurs à porter son témoignage, c'est-à-dire à maintenir envers et contre tout, dans l'obéissance et l'amour, la gloire de la personne du Seigneur Jésus. Maintenir à la mesure divine les gloires de sa personne, ne pas renier son nom de saint et véritable, garder sa parole, la vérité, au milieu d'un monde hostile et méprisant, est une mission qui revêt une importance extrêmement grande. Appliquons-nous à bien comprendre l'importance d'être des sacrificateurs pour notre Dieu et Père. À celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang. Et il nous a fait un royaume, des sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. Quelle est votre appréciation de Jésus? Lire Matthieu chapitre 26, versets 6 à 14. Dans le chapitre 26 de Matthieu, on voit les hommes se liguer contre le Seigneur Jésus. Les chefs des Juifs et les anciens le haïssent, ils veulent le faire mourir. Judas, l'un des 12 disciples, trahit son maître pour 30 pièces d'argent. Les soldats le saisissent comme s'il était un brigand. Les uns lui crachent au visage et les autres le frappent. Puis les Juifs et les Romains s'unissent et le crucifient. Les hommes manifestent ainsi ce qu'ils sont, des révoltés, pleins de haine contre Dieu et son Fils, qui pourtant était venu dans ce monde pour apporter le salut aux hommes perdus. Mais il nous est rapporté, par contraste à cette pleine manifestation de la méchanceté humaine, le geste d'amour d'une femme qui montre son appréciation de la personne du Seigneur Jésus. Cette femme vint trouver Jésus dans la maison de Simon le lépreux. Elle vint vers lui parce qu'elle reconnaît en lui le Fils de Dieu, le Sauveur. Les autres le méprisent, mais elle sait discerner en lui celui qui est digne de recevoir tout hommage et tout honneur. Elle prend un vase d'albâtre, plein d'un parfum de grand prix, et le répand sur la tête du Seigneur pour l'honorer. Ce parfum avait coûté 300 deniers, le salaire d'une année de travail. Pendant longtemps, elle avait donc pensé à lui et avait préparé ce témoignage d'amour. Cette scène nous parle du culte d'adoration rendu au Seigneur. Ce que nous offrons au Seigneur est directement lié à l'appréciation que nous avons de sa glorieuse personne. Nous remplissons notre vase d'albâtre pendant la semaine en vivant en communion avec le Seigneur Jésus, en pensant à lui et à sa gloire morale. Quand nous réalisons cela, nous pouvons lui apporter le dimanche en assemblée le culte d'adoration dont il est digne. Que nous coûtera ce parfum? Du temps pour lire la parole de Dieu, du temps pour la méditation personnelle, du temps passé à genoux dans la prière et la louange. Remarquons encore que le Seigneur dit, « Cette femme, en répandant ce parfum sur mon corps, l'a fait pour ma sépulture. » Verset 12. Cela nous enseigne que le culte d'adoration ne peut être séparé du souvenir de la mort du Seigneur. La scène ne nous en parle-t-elle pas aussi? C'est à la croix où il est mort que nous sont révélées les plus belles gloires morales du Seigneur Jésus. Ce sont elles qui attachent nos cœurs à sa personne. Chers auditeurs, quelle est votre appréciation de la personne de Jésus, celui qui vous a tant aimé? Chers frères et sœurs en Christ, connaissez-vous le privilège d'adorer le Seigneur au milieu d'un monde qui le hait? Préparez-vous durant la semaine ce parfum dans votre cœur pour le lui présenter le dimanche comme adoration en esprit et en vérité. C'était Écho de la Bonne Nouvelle, une émission d'évangélisation et d'édification chrétienne. Voici notre adresse, Écho de la Bonne Nouvelle, 01, boîte postale 832, Lomé, Togo. Courriel maison des traités @yahoo.fr.